d'aveuglement, de fureur, de folie, de cécité et d'égarement d'esprit. Alors, c'était pour nous mettre dans le bain de ce joyeux système qui fait que certainement les femmes sont folles. Alors voilà, on a décidé de parler de femmes et psychiatrie parce qu'actuellement, on fait un groupe de parole qui traite de la psychiatrie en général. Et là, on s'est retrouvés à trois, donc trois femmes. Et du coup, on a eu envie de traiter du sujet femmes et psychiatrie plus particulièrement, plus spécifiquement. Et en fait, voilà, on va essayer de développer un peu plein de sujets et qui démontrent comment le système joue sur la folie des femmes, comment la structure patriarcale est omniprésente dans cette histoire de folie de femmes.
Et là, on va commencer avec quelques données qu'on a pu trouver à droite à gauche, en discutant avec Marinette aussi, et on espère que ce soit le début en fait d'une série où on creusera plus spécifiquement certains thèmes, où on pourra plus prendre le temps de discuter avec des femmes qui ont vécu le système psychiatrique. Donc là, on c'est un peu des essais, on va expérimenter des lectures, des histoires. On pourrait dire des petites surprises radiophoniques. Mais on espère bien continuer et faire d'autres émissions sur ce thème.
16 mai.
Rose Tanuser, 44 ans, est depuis longtemps dans une mélancolie profonde que rien n'a pu dissiper.
Je propose de la placer parmi les incurables.
22 mai.
Elisabeth Bonneton, 33 ans, est une femme vicieuse qui boit. Le vin la rend folle.
Je propose de la placer aux incurables.
24 mai.
Frédéric Folliot, 67 ans, est dans une mélancolie profonde qui peut tenir à une affection cancéreuse.
Je propose de la placer aux incurables.
26 mai.
Geneviève Pécheux, 40 ans, est une fille que je crois vicieuse. Elle boit et le vin la rend folle. Sa sobriété la rétablit.
J'estime qu'elle peut quitter l'hospice dès aujourd'hui.
30 mai.
Adèle Riffaud, 18 ans, est arrivée dans une agitation très vive, mêlée d'hystérie, à laquelle succède une espèce d'imbécilité dont elle ne me paraît pas encore guérie. Toutefois, elle peut revenir dans le monde. Sa tante la réclame.
J'estime qu'elle peut lui être confiée et sortir dès ce moment de l'hospice.
3 juillet.
Cécile Dandrieux, 32 ans. Elle n'a d'une femme que les traits. Est frappée d'une absence complète de faculté intellectuelle. C'est une brute sans instinct. Elle refuse le pain, mange la viande avec avidité. Son état est congénital.
Je propose de la placer parmi les incurables.
7 juillet.
Désirée Béranger, 26 ans, idiote, sourde et muette. Son état est originel et physiologique.
Je propose de la placer parmi les incurables.
16 juillet.
Jeanne Duval, 33 ans, est sujette à des crises nerveuses. Elle boit. Son mari la réclame.
J'estime qu'elle peut sortir de l'hospice sur le champ.
17 juillet.
Adèle Prévost, 27 ans, est dans une mélancolie profonde. A plusieurs fois tenté de se suicider. Cet état, loin de s'améliorer, empire tous les jours.
Je propose de la placer dans un dortoir d'incurables.
29 juillet.
Jeanne Vénot est entrée dans un état de mélancolie après s'être précipitée dans un puits. Est actuellement calme et raisonnable. Paraît comprendre très bien la situation. Promet d'éviter tout ce qui pourrait l'y faire retomber.
J'estime qu'elle peut partir de l'hospice dès à ce jour et être rendue à son mari qui la réclame.
30 juillet.
Marie-Madeleine Lécuyer, 45 ans, est travaillée par une manie très vive. Elle casse, brise, frappe, déchire. Cet état n'a pas varié depuis un an qu'elle est ici.
Je propose de la renfermer dans une grille d'incurables.
Oh ma folie, mon beau bateau, mène-moi à Valparaiso. J'en ai assez du parc Monceau, de ses bassins, de ses jets d'eau, de ses enfants exaspérés, traînés dans la suie de l'été. Et se noyer pour se noyer, la mer serait moins étriquée. Oh ma polis mon beau flacon, donne-moi d'étranges poisons. J'en ai assez du postillon, et des litrons, et des graffions, et des serveuses de café qui attendent d'être mangées. Et s'assommer, pour s'assommer, il vaut mieux être foudroyé. Oh, ma folie, ma belle fièvre, mène-moi sur d'affreuses grèves. J'en ai assez d'air de sève, où les vieillards doucement crèvent dans la différence et l'ennui, comme si ça n'était pas leur vie. Et se flinguer, pour se flinguer, j'aime mieux les pestiférer. Oh, ma folie, mon beau cancer, recouvre-moi de fleurs de fer, de l'atelier de Lucifer. J'en ai assez des infirmières, de cette fondation Curie qui est le monde d'aujourd'hui. Et être cuit pour être cuit, il vaut mieux que ce soit joli.
Les raisons de l'internement psychiatrique diffèrent profondément selon qu'il s'agit des hommes ou des femmes. Les raisons de l'effondrement pour les femmes se situent dans la zone des sentiments, alors que pour les hommes, elles résident dans le monde social du travail, sentiment d'insuccès professionnel et d'échec social ou économique. Il ne peut du reste qu'en être ainsi, vu la différence des rôles assignés aux deux sexes, rôle privé pour les femmes, rôle public pour les hommes. Tout comme les raisons de la folie diffèrent pour les hommes et pour les femmes, l'âge auquel la crise se manifeste diffère également. Pour les femmes, l'âge de la folie tourne entre 40 et 60 ans, et le malaise frappe surtout les femmes mariées. Pour les hommes, il tourne entre 20 et 35 ans. La différence dans les classes d'âge est significative. À l'âge mûr, la femme découvre brusquement qu'elle est devenue inutile. Jusqu'à ce moment, elle a été acceptée et vécue comme la figure oblative indispensable vers laquelle convergeaient les demandes affectives de tous les membres de la famille et à laquelle on demandait la disponibilité pour accomplir tous ces services gratuits qui sont le symbole de sa réussite comme épouse et comme mère. Mais quand les enfants, devenus grands, partent de la maison, ils lui démontrent dès lors son inutilité et la précarité de la sécurité affective dans laquelle elle avait cru. Elle se retrouve les mains vides, après une vie vécue en fonction des autres, et rien n'a plus de sens. Pas d'avenir, pas d'affection garantie, mais seulement des années de vide et de solitude affective devant elle, car les intérêts ne s'improvisent pas. On les cultive durant toute sa vie, et ils tendent à faire partie du quotidien bien avant la vieillesse. En même temps que les enfants l'abandonnent, arrive l'âge de la ménopause, que la femme vit, sous l'influence courante, comme la fin de sa propre sexualité. Son corps, aimé et désiré tant qu'il était jeune et beau, utilisé tant qu'il était en mesure de procréer, vieillit et déchoit. Il se heurte au mépris des autres que la femme ressent et qui devient, par contre-coup, mépris d'elle-même. En même temps, elle doit constater que la situation de son compagnon est tout autre. Au même âge, il conserve son travail, ses intérêts, ses amis, sa liberté, ses distractions et son rôle social. La comparaison renforce le sentiment de son inutilité, de sa fin imminente, de sa mort affective et sociale, et la crise éclate. La loi de réforme psychiatrique ne prévoit plus, on le sait, ces internements pour une durée indéterminée dans un hôpital psychiatrique, qui devenaient souvent de tragiques internements à vie. Quand le malade surmonte la crise aiguë qui a déterminé son internement, il est renvoyé dans sa famille. Si ce sont souvent ces conflits familiaux qui ont provoqué le moment de la folie, qui l'ont produite et y ont poussé le membre le plus faible au terme d'une dynamique destructrice, le retour dans la famille, sans qu'aucune garantie que ces dynamiques aient changé, ne peut être que négatif. Mais le retour à la maison des hommes et des femmes se produit aussi de manière et pour des raisons différentes. En effet, le retour dans la famille des hommes, mari, fils ou frère, est subordonné à la présence à la maison de femmes valides. La fragilité du malade doit être compensée par une femme qui se sent assez forte et valide pour prendre soin de lui et le protéger, et qui soit capable de l'assister comme une mère. Au contraire, la condition du retour de la femme dans sa famille, c'est que la femme, qui a surmonté la crise aiguë, soit jugée capable d'accomplir elle-même ses tâches ménagères de toujours. C'est vrai, On assure que la femme qui sort de l'asile psychiatrique a dans sa famille quelqu'un qui soit disposé à développer un comportement protecteur à son égard. Et souvent, ce quelqu'un est le mari. Mais souvent aussi, c'est un proche parent, une femme, naturellement. Mais, en échange, on lui demande d'être capable de s'occuper de la maison et d'en garantir le fonctionnement acceptable. Sa capacité de s'acquitter de la part la plus concrète de ce qui est à la fois sa fonction et son rôle de ménagère est considérée comme un indice de normalité suffisante. La souffrance qu'implique la reprise d'une routine domestique, qui a souvent eu une grosse part dans la genèse du malaise mental, semble n'intéresser personne. Il arrive souvent que le simple et soudain refus par la femme d'accomplir ses devoirs domestiques soit interprété comme un signe de folie. Certaines femmes n'ont été internées que parce qu'un jour, incapables de supporter davantage des situations qui s'étaient prolongées et qui étaient objectivement insupportables, elles ont attrapé un pan de la nappe alors que la table était mise et flanqué par terre tout ce qui s'y trouvait. Il arrive à beaucoup d'hommes de saisir les coins de la nappe, de la table et de tout faire voler à travers la pièce. Mais à aucun d'être interné dans un hôpital psychiatrique pour cette raison. Un tel comportement, de la part d'un homme, est certes jugé violent, mais non pas fou.
Alors, c'était un texte écrit par Giannini Bellotti, extrait d'un bouquin qui s'appelle « Les femmes et les enfants d'abord ». Voilà, alors on va poursuivre l'émission.
Et notamment, par rapport aux recherches qu'on a faites pour cette émission, on s'est rendu compte qu'il y avait très peu de recherches ou d'études sur les psychiatres qui avaient pu justement voir précisément les différences qui existaient entre les hommes et les femmes sur ce thème. Et souvent, on est obligé d'utiliser des données qui sont dites de second ordre, c'est-à-dire des données qui viennent de recherches ou d'études qui sont liées à la psychiatrie dans le sujet. Mais où cette différence n'est pas prise vraiment en compte et où on peut trouver des informations en fait un peu entre les lignes. Et en général, dans le système médical, l'analyse comparative entre les hommes et les femmes est très rare. Les différences entre les sexes ne sont pas encore vues ou reconnues comme des déterminants sociaux importants. Et donc encore moins ou autant sur la psychiatrie ou la santé mentale. Mais en 99, en Suisse, il y a quand même eu une étude qui a été menée par des sociologues sur les pratiques des femmes et des hommes psychiatres. Il y a eu d'autres études avant celle-ci, dans les années 80 et 90, aux États-Unis, au Danemark, en Australie, par exemple, qui montraient déjà qu'il y avait un certain nombre de différences entre les femmes et les hommes qui exerçaient le métier de psychiatre. Alors, des différences. Souvent, les femmes sont en moyenne plus jeunes que les hommes. Elles ont moins souvent un titre de spécialiste dans un domaine. Elles sont plus souvent salariées, mais elles font toujours un nombre d'heures plus faible en moyenne par semaine que les hommes. Et évidemment, les femmes sont moins bien payées, même si on tient compte d'autres différences. Les femmes sont moins bien payées que les hommes en psychiatrie. Alors, comment on peut expliquer ces différences ? Eh bien, c'est un peu partout, c'est un peu comme partout. En plus de leur travail, elles ont d'autres tâches à accomplir qui entraînent une double journée de travail. Elles doivent s'occuper des tâches domestiques, s'occuper de leurs enfants. Au niveau du travail même de psychiatre, il y a des discriminations particulières parce que comme elles accèdent moins à des titres de spécialistes, elles peuvent moins soutenir les jeunes femmes psychiatres qui commencent dans ce métier. Et les hommes de cette profession font globalement moins confiance aux femmes. Puis il y a des barrières aussi carrément socioculturelles, parce que les femmes et les hommes sont socialisés différemment. Et les femmes psychiatres, par exemple, elles insistent moins sur leur CV, par exemple, ou sur justement ces titres un peu honorifiques ou des titres de spécialistes. Elles ont un style de travail qui est différent des hommes. Et surtout, ce travail et ce style de travail est évalué différemment, aussi bien par les hommes de la profession que par la société en général. Alors, par exemple, les femmes travaillent plus en cabinet, plus que dans des hôpitaux ou des institutions. C'est donc qu'elles reçoivent des gens chez elles ou bon, dans des cabinets, et elles peuvent choisir les horaires qui leur conviennent. En cabinet, en moyenne, elles travaillent 10 heures de moins par semaine que les hommes. Et on pourrait imaginer qu'elles font ça justement pour pouvoir aménager leurs horaires, pour pouvoir mener de front leurs deux vies, quoi, leur vie de travail et puis leur vie privée. Une autre différence, c'est qu'elles utilisent moins souvent des traitements médicamenteux, qu'elles prennent moins de temps justement pour les sociétés scientifiques, les rencontres de spécialistes et tout ce truc un peu de on se fait mousser entre nous. Mais par contre, elles prennent plus de temps pour leur formation personnelle. Et on s'est rendu compte que donc ça c'est vraiment ces différences-là, elles sont vraiment très importantes pour le travail en cabinet. Par contre, en institution, ces différences tendent à s'atténuer ou même carrément à disparaître à certains moments. En 1980, à Montréal, il y a eu un colloque dont le thème était « Les femmes et la folie ». Et il y avait des psychologues, des travailleurs et des travailleuses sociales, et puis quelques femmes qui avaient été aussi en hôpital psychiatrique. Et ce qui a été observé, c'est que quoi qu'elles fassent, les femmes sont folles. Vu qu'il y a une majorité d'hommes qui sont psychiatres, qui véhiculent le discours dominant sur les rôles que la femme doit tenir, qui la contraignent à la soumission et puis à la négation d'elle-même, la question c'est comment ces hommes, ces psychiatres, peuvent bien diagnostiquer une quelconque maladie quand une femme vient les voir, s'ils ne prennent pas en compte justement tout le poids de la société. Si une femme vient parce qu'elle se sent déprimée ou à bout de souffle dans son rôle d'épouse ou de mère, ou simplement épuisée par son travail ou la double journée, le rôle du psychiatre, ça va être de tout faire pour la soigner. C'est-à-dire, en fait, de la remettre dans le droit chemin pour qu'elle puisse continuer à être une bonne épouse ou une bonne mère, une superwoman qui assume tout de front, alors que c'est précisément ça qui la rend folle. J'avais envie de parler aussi du double standard qui apparemment a été un concept qui a quand même pas mal débloqué des choses. En 1970 précisément, il y a une étude faite par Broverman et Broverman aux États-Unis sur plus de 2000 psychiatres, psychothérapeutes et travailleurs et travailleuses sociaux. Eux, ils ont été invités à donner leurs critères pour définir qu'est-ce que c'est la santé mentale, qu'est-ce que c'est la bonne santé mentale. Et donc Broverman et Broverman, ils avaient demandé donc à tous ces gens de la profession qu'est-ce qui était pour eux les critères de bonne santé mentale pour une femme, les critères de bonne santé mentale pour un homme et les critères de bonne santé mentale pour l'être humain en général. Donc ça générait trois types de réponses différents. Ce qui en ressort, c'est que pour l'homme et pour l'être humain en général, les critères sont les mêmes.
Indépendant, aventureux, compétitif, objectif, plus agressif, moins émotif, plus influençable, moins soumis, moins préoccupé par son apparence.
Alors que pour les femmes, les critères de bonne santé mentale sont carrément le contraire.
Soumise, moins indépendante, moins aventureuse, moins agressive, influençable, peu compétitive, plus émotive, plus préoccupée par son apparence, moins objective.
Ce qui veut dire concrètement qu'une femme indépendante et moins soumise est folle, qu'une femme aventureuse et peu influençable est folle, qu'une femme plus agressive et compétitive est folle, qu'une femme moins émotive et moins préoccupée par son apparence est folle. En 1980, au Québec, parce qu'on a surtout des informations sur le Québec, les femmes recevaient deux fois plus de prescriptions de médicaments pour le système nerveux central que les hommes et deux fois plus d'électrochocs. Pourquoi les femmes sont-elles considérées plus folles que les hommes ?
Je le regarde, il est là devant moi, c'est le coup de foudre à temps d'aller. Il est grand, il est beau, il est fort, il va pouvoir me protéger. Cette histoire qui commence me remplit, j'ai l'impression de vivre bien soudain. Entends-moi, coupe tes poils, maquille-toi et souris. Je me sens contrôlée parfois quand tu n'es pas d'accord. Ton regard me fait peur, je fais ce qu'il faut pour t'arranger. J'ai peur que tu me quittes, je me sens seule même avec toi. Et l'avenir me fait peur. Je me viens mon identité. Les critères sont parmi les valorisés. Au quotidien, ton imprégnation. Il n'est que j'accepte. Un petit vide de bras.
Elles sont chouettes, nos copines, c'était les Revengers. Et heureusement qu'elles sont là parce qu'on va aller un peu plus loin dans le glauque en parlant de Freud. C'est vite fait pour essayer de bien prendre conscience que toute la socialisation des petites filles, elle est basée sur des postulats freudiens. Moi, ce que j'observe, c'est que on est dans une société judéo-chrétienne et patriarcale, c'est sûr, mais aussi freudienne. Tous les thérapeutes traditionnels sont nourris de théories psychanalytiques freudiennes. Alors là, qui s'auto-justifie. C'est vraiment un petit monde qui a quand même pas mal de pouvoir sur l'imaginaire collectif. De ce que j'ai compris, et en caricaturant, pour Freud et toutes ses théories annexes, toutes les femmes sont hystériques parce qu'elles souffrent d'une absence fondamentale de pénis.
Évidemment.
Depuis qu'elle est toute petite, la femme n'a qu'un seul désir, c'est l'envie de pénis.
Bah, bien sûr.
Le sexe de la femme est considéré comme un non-sexe.
Tout à fait.
Et comme la femme est un être incomplet, un non-être qui ne possède pas le sexe, elle ne peut exister que par l'autre.
Exactement.
Emballé, c'est pesé. Une femme qui dirait que c'est pas vrai, qu'elle a pas envie d'avoir un pénis, ce qui est quand même assez courant finalement, est considérée encore plus folle qu'une femme qui reprend à son compte ce fantasme du pénis créé par des hommes dans un monde patriarcal. Heureusement, il y a une autre approche qui, encore une fois au Québec, est pas mal développée. C'est l'approche psychosociale. Les thérapeutes qui travaillent avec cette approche psychosociale, eux, ils essayent de démystifier ce fantasme, cette prétendue envie de pénis, en démontrant justement que les femmes ont surtout envie de pouvoir faire des choses. Les femmes ont envie de pouvoir se réaliser dans la société autant que les hommes. Les filles n'ont pas envie d'être des garçons, non. Mais elles ont envie d'avoir accès à l'espace public, avoir une emprise sur leur propre vie, sur leur corps, sur leur environnement social, comme les hommes. Et on va lire une citation de Louise Mallette, qui est une psychologue québécoise qui travaille dans un hôpital psychiatrique et qui est justement de cette école avec une approche psychosociale.
Dans notre société en changement, les femmes sont aux prises avec des attentes contradictoires. On dit qu'elles doivent être autonomes, épanouies, libérées. Il faut alors qu'elles s'affirment, mais pas trop. Sinon, elles sont jugées agressives. Il faut qu'elles soient intelligentes, mais pas trop. Sinon, elles sont jugées castratrices. Il faut qu'elle soit belle, mais pas trop. La beauté peut rendre les hommes impuissants. Mais au travail, comme à la maison, les femmes partent perdantes. Formation moindre, emploi moins intéressant, moins bien payé, difficulté à s'affirmer, difficulté à croire en leur valeur. Là aussi, on les préfère faibles, petites filles, dociles et séduisantes. Elles vivent leur sentiment d'infériorité dans les moindres détails de leur vie quotidienne.
Alors, moi j'avais envie de revenir aussi sur cette approche psychosociale, parce qu'il y a une autre femme qui s'appelle Kathleen Whipp, qui est encore canadienne, et qui, elle, a interviewé des femmes, donc en 1986, tout ça, c'est un peu daté, mais on n'a pas trouvé grand-chose de très récent, et on creusera pour les prochaines émissions, c'est promis. En attendant, c'est des moments et des éléments qui sont assez importants, justement, dans la construction de cette nouvelle approche de la psychothérapie. Et elle a donc demandé à des femmes qui étaient en hôpital psychiatrique ou qui en étaient sorties c'est un peu un espèce de cahier de doléances, quoi. Elle a recueilli des conseils des femmes elles-mêmes pour leur propre guérison. Et j'en ai, disons, un peu sélectionné quelques-unes. Par exemple, elles ont réclamé qu'on les aide à comprendre leur souffrance et qu'on donne de l'importance à leurs sentiments. Et en fait, si elles réclament ça, c'est qu'actuellement, ce n'est pas le cas. Elles ont aussi réclamé qu'on les voit comme des personnes à part entière et qu'on encourage leurs rêves. Et par exemple, il y a une femme qui raconte qu'elle s'est retrouvée à l'hôpital en urgence psychiatrique après une surdose presque fatale et qu'une intervenante en agression sexuelle est venue et lui a parlé. Et elle lui a demandé de lui parler de ses rêves, de ses envies, de ce qui la faisait vibrer, quoi. Au début, la femme qui était là sur son lit, comateuse et tout, elle pensait que l'intervenante était complètement insensée, et que c'était fou de lui demander ça, alors que bon, elle venait presque de mourir, quoi. Sauf qu'en fait, cette femme, elle s'est rendue compte plus tard que ce moment-là, il avait été très très important pour elle, parce que l'intervenante avait cru qu'elle pouvait avoir des rêves. Les femmes qui ont été interrogées, elles ont mentionné aussi qu'elles avaient besoin d'avoir le contrôle sur leur propre vie et sur le processus de leur guérison, car en fait, c'est elles les meilleures expertes sur leur propre guérison. Et ce qui en a été tiré, c'est que ce processus de guérison, il doit devenir une collaboration étroite entre le thérapeute et la personne qui va pas bien, pour pouvoir déterminer les étapes ou la direction que cette femme peut prendre pour aller vers la guérison en toute connaissance de cause. Et il y a un dernier élément, c'est que les femmes ont demandé à minimiser la médication. En fait, elles ont observé que la médication, même pas abusive, mais la médication systématique, peut retrancher la personne de ses émotions et rendre difficile l'accès à justement ses ressentis sur ses besoins et sur ce sentiment de guérison et de chemin qu'elles peuvent prendre. Et cette femme, Kathleen Whipp, qui a fait ses interviews, elle dit que toutes les femmes qu'elle avait interviewées cherchaient des alternatives à la médication. Il y en avait quelques-unes qui trouvaient quand même que les médicaments pouvaient aider à dormir, par exemple, pendant certains moments difficiles, mais que toutes, elles disaient que cette médication, ça devait être un processus d'exploration commune entre le thérapeute et la femme pour permettre justement à la femme qui donc est en souffrance de pouvoir gérer sa vie tout en lui permettant d'accéder à elle-même, à son fort intérieur, assez pour être capable de générer d'elle-même la guérison et que ça ne vienne pas des médicaments.
Alors, oulala, je pense aussi ce que les femmes psychiatrisées, enfin j'en sais rien en fait, mais en tout cas moi ce que j'aurais envie de dire par rapport à la psychiatrisation des femmes, c'est que j'ai l'impression que la psychiatrie, elle pourra pas être intéressante, enfin elle pourra pas venir en aide à une femme tant que les valeurs féministes seront pas pris en compte, en fait. Le contexte patriarcal, le contexte de la consommation, enfin, tout un tas de contextes, en fait. Et j'ai l'impression que c'est ça aussi que, quelque part, elle cherche à dire. Maintenant, on va écouter un autre texte. Voilà.
Inès a 45 ans environ. Je l'ai connue dans un hôpital psychiatrique il y a quelques années. Je ne sais pas où elle est aujourd'hui, si elle est encore à l'hôpital comme tant d'autres qui n'ont plus personne chez qui aller habiter ou qui sont si épouvantés par le monde extérieur après un séjour à l'hôpital qui a duré de longues années qu'ils préfèrent y rester, si elle est retournée chez elle ou si elle a trouvé asile dans une de ces rares communautés thérapeutiques dont on rêve. Elle est maigre, grande, un peu voûtée, un corps osseux et disgracieux, rendu encore plus inharmonieux par un vêtement grossier et informe, serré à la taille par une épingle. Ses cheveux, sales et dépeignés, lui tombent dans les yeux, sa peau est jaune et malsaine, son visage allongé et flasque, passif et inerte, les yeux enfoncés dans leur orbite. Il lui manque presque toutes ses dents. Les longues durées des hôpitaux psychiatriques, c'est-à-dire ceux qui y séjournent pendant des années, ont pour caractéristique commune d'être tous édentés, parce que la sécurité sociale, c'est bien connu, ne prend en charge la denture des assurés sociaux que pour leur arracher les dents, mais jamais pour leur en remettre. « Je la rencontre pour la première fois dans le long couloir de l'hôpital. Elle nettoie le carrelage avec un chiffon dégoulinant qu'elle rince dans un seau et jette par terre avec, chaque fois, un mouvement de colère. Je la rencontre de nouveau plus tard, dans une réunion du service, où le psychiatre de garde, aidé d'une infirmière, essaye de faire parler un groupe de femmes. Inès est inquiète. Elle va et vient à grandes enjambées, comme absente. De temps à autre, elle s'arrête d'un coup et tente d'enlever son tablier informe. Elle y parvient, elle se retrouve en combinaison, mais on l'invite énergiquement à se rhabiller. Son histoire est terrible, mais, dans un certain sens, normale. Fille légitime d'une mère paysanne qui l'abandonne dans un hospice pour enfants trouvés, elle est élevée sans amour, comme cela arrivait dans les institutions de ce genre. Elle passe ensuite d'un collège de religieuses à l'autre, où elle apprend les non-métiers féminins typiques. Coudre, laver des carrelages et des montagnes d'assiettes sales, faire la lessive. À 18 ans, elle est placée, sans défense, et exploitée autant qu'on peut l'être, et vit une vie solitaire, marginalisée, pleine de dures fatigues et vide de toute affection. Dans une de ses sorties hebdomadaires, quelques années plus tard, elle rencontre un homme qui a un petit atelier d'artisan et qui lui offre de l'épouser. Elle passe d'un esclavage à l'autre. Elle travaille toute la journée dans l'atelier de son mari et à la maison. Mais rien de ce qu'elle produit par son dur labeur quotidien ne lui est reconnu ni ne lui appartient. Son mari lui donne chaque jour tout juste l'argent pour les courses et elle doit s'arranger avec. Il lui jette à la figure sa naissance illégitime à chaque instant, comme si c'était sa faute. Il l'insulte fréquemment, la traite de putain, lui fait des scènes de jalousie gratuites et parfois la bat. Il prétend faire l'amour avec elle, souvent et avec violence. Il l'oblige à des rapports sexuels qui la dégoûtent. Elle se tait, subit, travaille. Après quelques mois de mariage, le mari commence à lui jeter à la figure qu'elle ne sait même pas lui donner un enfant et lui fait sentir tout son mépris de cette impuissance. Il lui répète souvent que si elle n'est pas capable de lui donner un enfant, il le fera avec une autre. L'enfant n'arrive pas. Quelques années de mariage passent. Elle ne réussit pas à concevoir l'enfant que le mari veut avoir. Elle commence à donner des signes de déséquilibre. Elle parle toute seule, oublie de faire des choses. Elle est toujours plus négligée. Elle passe d'accès de perfection maniaque à des périodes de passivité et d'inertie. Souvent, son mari, le travail fini, ne revient pas à la maison sans donner d'explication. Et elle ne lui demande rien. Elle s'enferme toujours plus en elle-même. Pour la première fois, elle est conduite chez un neuropsychiatre. Son mari l'accompagne. Il semble que le médecin lui conseille comme seul traitement de lui faire avoir un enfant. Elle continue à travailler, dans l'atelier et à la maison, et le mari achète avec les gains de tous les deux une maison et un terrain qu'il met à son seul nom. Elle ne proteste pas, cela lui paraît juste. L'atelier est au nom du mari, elle se contente de l'aider. On sait bien que le travail ménager est un devoir pour toute bonne épouse et qu'il est gratuit. Le mari a tous les droits d'être servi et de hurler si le repas est en retard ou s'il n'est pas à son goût. Presque miraculeusement, elle est enceinte. Et alors que son mari exulte et cesse de lui faire des scènes et de la battre, elle s'enfonce encore plus dans l'apathie. 2 mois après, elle avorte spontanément. C'est le commencement de la fin. Le mari lui jette une fois de plus à la figure son incapacité d'avoir un enfant et l'informe en même temps que lui, il a déjà un enfant, qu'il l'a eu il y a 2 ans avec une autre femme et que, par conséquent, il n'a rien à faire d'elle et de ses avortements. Inès sort brusquement de son hébétude et passe par une épouvantable crise de violence pendant laquelle elle brise tout ce qui lui tombe sous la main. Son mari la bat sauvagement, la déclare folle et la fait enfermer dans un asile. Quand je la rencontre, elle est là depuis 8 ans. Son mari vient la voir de temps en temps. Il lui dit que si elle se conduit bien, il la ramènera à la maison. Il le lui dit chaque fois, mais cela n'arrive jamais. Quand il vient la voir, elle semble presque ne pas l'écouter, mais elle se souvient ensuite et répète mot à mot ce qu'il lui a dit. La dernière fois qu'il est venu, il lui a mis dans la main un billet de 1000 lires pour acheter une glace. Elle a regardé le billet, l'a pris, puis elle a regardé son mari, et avec le billet, elle a fait des confettis qu'elle lui a jetés à la figure. Au cours de ses allées et venues, très agitée, pendant la réunion, elle répétait mécaniquement « 1000 lires ». Il m'a donné 1000 lires. Moi, j'ai toujours travaillé. Il m'a donné 1000 lires. Et je les lui ai jetés à la figure.
Vous êtes toujours sur Dégenré, une émission pour...
Dégénéré !
Alors, tout à l'heure, on finissait sur ces questions genrées à l'intérieur de la sphère médicale, en fait. Le problème entre les psychiatres et les psychiatres, aussi les revendications des femmes psychiatrisées qui ont plein de revendications parce qu'elles ne sont vraiment pas suivies comme elles le désireraient. Et aussi, on se rend compte que ce monde, il est tellement mal fait que finalement, la folie des femmes, elle est générée par plusieurs choses. Et notamment aussi l'oppression par le corps, par la beauté et tout ça, machin. Et d'ailleurs, Zéline, t'as un truc sur les médicaments ?
Ouais, c'est juste du coup pour survoler la médicalisation et leur méfait sur le corps, notamment celui des femmes. Donc en fait, beaucoup de médicaments prescrits en HP modifient le corps, le fait grossir, le fait maigrir. Certaines filles aussi, après avoir ingurgité des médicaments, ont des montées de lait alors qu'elles ne sont pas du tout enceintes. Certains médicaments créent aussi une absence de règles. Donc on a le corps complètement déglingué. Voilà, et du coup il y en a certains aussi qui créent une photosensibilisation, du coup on peut plus sortir ou sinon il faut qu'on soit couverte donc de crème solaire, super. Et aussi la plupart des médicaments créent une baisse de la libido, mais du coup on approfondira dans une autre émission tout ça parce que c'est très complexe et il y a plein aussi de recherches à faire et de connaissances à avoir là-dessus qu'on n'a pas pour l'instant.
Et tu disais aussi que la plupart ils pouvaient entraîner une stérilité à terme.
Oui, aussi, ouais. Oui, je ne l'ai pas noté sur la fiche, mais oui, aussi, il y a des médicaments. Du coup, il y a des filles qui se retrouvent stériles. Et il y a aussi des stérilisations qui sont faites d'office, en fait, dans les hôpitaux psy, soit simple décision du médecin, ou sinon à la demande des parents, qui, du coup, vu qu'ils estiment que leur fille est folle, et ben, du coup, comment est-ce qu'elle pourrait avoir, et encore mieux, encore moins bien, éduquer un enfant. Voilà.
Que les femmes qui se retrouvent, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Marinette, qui se retrouvent enfermées, elles sont complètement désarmées, quoi. Mmh. Elles n'ont plus aucun pouvoir sur leur vie et sur leur corps.
Et leurs droits de citoyenne.
Et sur leurs droits de citoyenne. Ce qui est quand même un fou. On va enchaîner avec une petite chanson de Brigitte Fontaine, parce qu'on l'aime bien et qu'elle aime bien. La folie.
Folie furieuse, j'ai trouvé un trésor d'or et de pierres précieuses, enterré par des corsaires des temps jadis, aïeux de mes aïeux. Trésor de la ville d'Is, sombré dans les flots bleus, à la porte des hommes, des démons ou des dieux, qui tombent dans les pommes quand ça devient sérieux. Ce trésor endormi me fait peur et me tente, comme un bel ennemi aux œillades brûlantes. Il y a des poignards incrustés de rubis et une vierge noire habillée d'organdi, des parures tartares et des bagues à poison, des insignes barbares qui défient la raison. Folie furieuse, deux naufrageurs, liaison dangereuse, de tête à cœur, tête oublieuse, cœur en chaleur. Folie furieuse, pile et secteur. Il y a des soirées sauvages et lunaires, c'est la mer en furie, figée dans la nuit claire. Il y a des saphirs tranchants comme un éclair, en forme de menhir, de bonheur ou d'enfer. Il y a des lueurs de perles satinées, douces comme des pleurs calmées par des baisers. Je ne suis qu'une oie blanche ayant couvé l'œuf d'or du monde qui se penche sous le poids de la mort. La lumière la blesse de sang blessé noir. Son pauvre cœur en laisse se déchire et s'effare. Elle essaie d'enterrer ses splendeurs orageuses sous les monts escarpés de sa folie furieuse. Folie furieuse de naufrageurs, liaison dangereuse, de tête à cœur, tête oublieuse, cœur en chaleur. Folie furieuse, pile et secteur. Folie furieuse, de naufrageurs, liaison dangereuse, de tête à cœur, tête oublieuse, cœur en chaleur. Folie furieuse, pile et secteur.
Rapport taille poids vêtements. Revoir taille des vêtements, mais pas celle des filles prises en photo et exposées dans la rue tous les 10 mètres. Et recto verso, s'il vous plaît. Vive les sucettes publicitaires, double face, et on t'en remet une couche au cas où tu aurais oublié que le corps d'une fille doit être comme ci, comme ça. Tu vas à la pharmacie, et là encore, publicité et vente de produits pour maigrir. Pilules magiques, sirop, crème, gélules. Au supermarché, encore, produits light, produits sans calories, ou seulement deux. Encore, encore. Envie d'une nouvelle fringue? Vous l'avez en grande taille? Ah non, on s'arrête au 38-40. Eh ben moi je fais du 44, alors je m'habille comment? J'essaie quand même le 40, et serre les fesses et rentre le ventre. Mais rentre pas dedans. Alors tant pis, je sors, rentre chez moi. Ah, les portiques du métro, je passe pas. Il faut serrer tout ça pour que ça passe. Ou passer en biais pour pas toucher les portes. Et les sièges aussi, ceux du bus, du métro et ceux du train. Je m'assois, pourvu que personne ne vienne s'asseoir à côté de moi, mis à part ma phobie des gens. Il va falloir que je me serre encore, encore, et encore. Et cet accoudoir qui me rentre dans les côtes, laissez-moi tranquille. Je sors encore ces corps publicitaires, comme une norme idéale XXS. Mais moi, j'aime la bouffe. Rajouter du beurre sur les pâtes et puis une bonne dose de fromage râpé avec. C'est bon. Mais je rentre déjà plus dans un 44. Bon, tant pis, on passe au 46. À partir d'une certaine taille, c'est pas terrible les fringues. Pas confort non plus. À part les joggings, mais j'ai pas envie d'en porter. J'ai envie de mettre en décolleté sans que ça déforme, que ça fasse joli. Mais les boutons pètent et moi avec les plombs. Alors je me résigne. Régime. Salade avec la sauce à côté. Comme les pâtes. Plus de beurre, plus de râpé. Mais pas trop de pâtes, les féculents adorent mes hanches. Mais je les aime pas, mes hanches. Plus de pain, plus de bonbons si bons. Presque plus rien dans mon assiette, ni dans ma tête. Juste cette obsession, rentrer dans un jean trop petit pour moi. Alors je me confine, avale les soi-disant gélules amaigrissantes, qui coûtent la peau des fesses, soi-disant passant. Tisane minceur, drainante. Vais à la salle de sport. Allez, rame, transpire. Et fais des abdos. Tu la sens, ta graisse, qui te fait mal ? Allez, rame encore. Refais des abdos, c'est bon. Mais j'y arrive pas, c'est trop. Je ne suis pas forte. J'essaye alors de rejeter par là où j'ai ingurgité toute cette bouffe. Un doigt, puis deux parfois, qui titillent le fond de ma gorge dans ma bouche. Et ça sort. Goût aigre, acide. Rêve nocturne de tuyaux qui se planteraient dans ces satanées cuisses et qui pomperaient toute cette masse. Encore, encore. Parce qu'il y en a là-dedans. Faut que ça sorte. Allez, oups. C'est pas si simple. Si c'était si simple. Ah, encore les gélules, les coupes fins. Mais j'ai faim, toujours. Rien ne coupe cette envie. Mon cerveau se rétracte. Mincir. Est-ce vraiment si bien de faire du 36 ? Apparemment, ça a l'air, puisque beaucoup de femmes s'habillent comme ça et que c'est celle des panneaux recto-verso. Alors, encore la salle de sport. La salade avec la sauce à part, les doigts dans la gorge, les coups fins, les tisanes. Et un jour j'en ai eu marre, parce que ça fait un moment que j'essaye, et réessaye encore, encore. Que j'y arrive pas, que ces cuisses et ce ventre restent en place. Alors j'en ai vraiment marre. Mets tout à la poubelle, et le jean 38 avec. Fonce à la pharmacie avec un énorme sac poubelle. Arrive en trombe. Prends tout ce qui se trouve au rayon beauté minceur. Et là, le vigile vient me voir, en me demandant ce que je fais. Je ne l'écoute pas, je ne l'entends pas. Veux juste tout foutre à la poubelle, pharmacie, supermarché, sucette publicitaire, tous les 36 et 38 de la terre, et moi avec. La pharmacie, c'est pas un espace où on trouve des remèdes pour qu'on aille mieux, plutôt que de créer des psychoses. J'en reviens à mon sac poubelle. Pousse le vigile et les gens qui rentrent, déverse tout dans la rue. Au milieu, c'est mieux. Marche dessus, crie, enlève mes vêtements un à un, n'entends rien, ne vois rien, ne sens rien, à part ces mains fermes qui me prennent par le bras, me basculent en arrière, je peux plus bouger, mes jambes sont tenues aussi. Ensuite, plus rien, c'est comme en somme, un réveil chaotique dans une pièce, j'entends des bruits, loin, et puis, plus proche, des dames blanches qui passent, on ouvre la porte, on apporte un plateau repas, comme si j'avais envie de manger, on me force. Je balance le plateau à travers la pièce. On me dit que je suis là pour un moment si je ne coopère pas.
Il nie avec deux mois qu'elle vivait avec lui. Ils étaient très heureux, il était si gentil. Un jour il est rentré et tout de suite elle a vu qu'il avait un peu bu. Le soir il l'a battu. À l'instant il a dit, je suis devenu fou. Il a dit, je t'aime tant, tu sais, je suis jaloux. Il a dit, je ne sais pas ce qui m'a pris. C'est offrait des fleurs. Ils se sont mariés, bien qu'elle eût un peu peur. Mais ils recommençaient et disaient chaque fois: je ne sais pas pourquoi, pourtant je n'aime que toi. Ils ont eu 3 enfants, mais en très peu de temps. Si elle l'aimait encore, elle le craignait pourtant. Quand ils recommençaient, ils pensaient maintenant: elle ne partira pas à cause des enfants. Sous les lunettes noires, elle camouflait ses yeux. Et sous le grand foulard, elle camouflait ses bleus. Les voisins se doutaient, mais chacun se taisait. C'est une affaire de couple, on n'est pas concerné. Un soir, elle s'est enfuie, emmenant ses petits. Sous la pluie, dans la nuit, recherchant un abri. Elle a erré longtemps à en perdre la raison. Faut que je pense à mes enfants, que je rentre à la maison. Ne sachant où aller, elle s'en est revenue. Cette fois, il lui a dit: si tu pars, je te tue. Se sentait perdue comme un oiseau blessé. Et sur elle, ce jour-là, le piège s'est refermé. J'ai appris aujourd'hui qu'elle est morte cette nuit. Car une fois de plus, cette nuit l'a battue. Pas plus fort que les autres fois, mais la tête à porter. Sur le coin d'une table, sa vie s'est arrêtée.
On me dit que je suis là pour un moment si je ne coopère pas. Mais j'ai pas envie, je les connais pas ces gens. C'est qui toi ? Qu'est-ce que tu me veux ? Du bien, on me répond. Je veux juste qu'on me laisse tranquille. Alors la porte se referme. Encore un plateau, avec comme apéro des gélules pour mon bien, me dit-on encore. Ok, j'avale. Eh bien voilà, dit la dame. Mange tout, attends qu'elle sorte, fonce aux chiottes, retrouve mes doigts dans ma gorge, rebelote encore et encore. Un an passe, peut-être deux, je ne sais plus. Me relève, marche sur mon pantalon et resserre encore la ceinture. Peut-être que je pourrais en trouver un autre. Je demande une taille plus petite à la dame. Ah non, c'est deux. Elle va voir s'il y en a un autre. Et voilà, me dit-elle en me tendant le pantalon. Je passe mes jambes dedans. Ça y est, je rentre dans un jean plus petit. Une taille 36 même. Mais je peux pas sortir, elle m'en a acheté en un mois.
Waouh! Merci Zéline pour ton histoire.
De rien.
Alors, une histoire un peu dure, mais parce que finalement, l'histoire des femmes, elle est un peu dure. Et là, tout à l'heure, avec l'histoire de Zéline, on montrait comment cette oppression, cette unité de beauté oppresse les femmes et aussi les amène à la folie, à détester leur corps, à rentrer dans une réelle violence encore. Et encore, c'est toujours ce truc de violence. Et d'ailleurs, je vais encore continuer avec les violences parce que les violences perpétrées envers les femmes sont encore nombreuses et très présentes, qu'elles soient physiques, psychologiques ou sexuelles, ou les trois. C'est les violences sexuelles et les violences psychologiques qui occasionnent le plus de ravages psychologiques chez les femmes. Et donc on dit que, enfin, donc la violence sexuelle est à l'origine de plusieurs problèmes graves de santé mentale. D'ailleurs, en cherchant un peu, je suis tombée sur une étude qui a été faite à Toronto en 2005. Donc c'est encore au Canada. En fait, il y a vraiment très peu de documents sur la France. Alors je sais pas trop pourquoi. Alors peut-être on s'est mal démerdé sur les recherches. On aimerait bien en trouver spécifiquement sur la France. Mais en attendant, je pense que ça diffère pas beaucoup, voire même pas. Et alors dans cette étude qui a été faite donc sur des femmes suivies en psychiatrie dans 5 hôpitaux différents, il se trouvait que 37% des femmes avaient été victimes d'agressions à caractère sexuel ou incestueuses pendant leur enfance, ce qui est énorme en fait, et qu'en plus 38% de ces mêmes femmes, donc de cet échantillon, ont aussi été victimes d'agressions à caractère sexuel mais à l'âge adulte. Donc ça fait beaucoup d'agressions sexuelles. C'est clair ou pas?
C'est-à-dire, c'est pas sûr qu'on comprenne vraiment si c'est... Donc, est-ce que dans toutes les femmes qui étaient là à l'hôpital, il y en a 37% qui avaient vécu des agressions sexuelles dans leur enfance et 38% qui avaient vécu des agressions sexuelles dans leur vie d'adulte?
Ça, mais on sait pas si les deux se confondent.
Ouais, voilà.
Ouais, ça,
mais en tout cas, c'est des pourcentages qui sont bien plus élevés en hôpital psychiatrique que dans la société.
Ouais, c'est ça. Et alors après, j'ai l'impression que c'est inutile, et pourtant je le répéterai encore, ces agressions sexuelles, elles sont principalement causées par des hommes en fait. Hein. Enfin, ce qui est important aussi dans la manière dont on essaye de traiter le sujet. Alors l'impact immédiat de ces violences sur les femmes se traduit par la peur, la terreur, l'insomnie, les bêtitudes, le silence, la honte, la culpabilité. À plus long terme, il va se traduire par exemple par la dépression, les idées suicidaires, les tentatives de suicide, la faible estime de soi, des altercations qui peuvent être importantes en ce qui concerne consommation, loisirs, travail, mais aussi des troubles sexuels, des troubles du sommeil, de l'appétit, différentes formes d'anxiété, phobie sociale, névrose obsessionnelle et une grande fatigue. Autant de symptômes qui ont vite fait d'enfermer les femmes sur elles-mêmes, et par là, les rendre folles, et folles aussi de ne pas voir ces violences enfin reconnues et prises en compte par ce monde. Mais aussi, le pire, c'est par les psychiatres eux-mêmes, quoi. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure un peu, Alice, en parlant justement de ce rapport genré à l'intérieur du médical. Et là, c'est hyper... Moi, je trouve ça hyper dur d'imaginer une femme qui a subi des violences sexuelles par un homme, s'adresser à un psychiatre, quoi, qui lui-même représente la figure masculine, quoi, donc représente quelque part l'agresseur. Et c'est aussi ce qu'on se disait, c'était... moi, j'imaginais... Enfin, on disait ça, on imaginait une femme en train de raconter les violences qu'elle a subies à un mec, un psychiatre, hein, déjà qui est soi-disant le saint, et elle, c'est la malade, hein, en train de se dire, mais en fait, c'est ce que je fais tous les soirs. Enfin, ou tu vois, ou c'est ce que j'occasionne de temps en temps. Et c'était hyper bizarre de s'imaginer penser ça, en fait. Et ouais, donc c'est... Moi, je me pose réellement la question si le psychiatre, qui est bien confiné dans cette société patriarcale, il a conscience de la gravité des rôles et de la soumission que ces rôles féminins impliquent pour les femmes et les enjeux que ça a, justement, dans la folie des femmes, quoi. Et ça, on trouve vraiment que Chi qui parle de ça. Et alors, c'était marrant parce que... Donc là, j'en balance pas mal sur les psychiatres, hein, masculins, mais les psychiatres féminins...
Kif-kif-bourricot.
Ouais, c'est kif-kif-bourricot, c'est ça. Marinette nous dit ça. Et notamment, on a une copine aussi qui nous racontait qu'elle s'est retrouvée face à une psychologue. Donc, c'est une copine qui a vécu des graves violences sexuelles, psychologiques et tout ça. Donc, la panelle, quoi. Et qui se retrouvait en face d'une femme psychologue qui lui renvoyait « Mais écoutez, ma petite dame, il y en a d'autres qui vivent ce que vous vivez, quoi. Dire, supportez, quoi. Supportez, allez de l'avant. C'est votre rôle, quelque part, quoi. » Et moi, je me dis, mais alors... Il y a aussi ce truc de compétitivité, de misogynie. Enfin, c'est hyper... c'est lourd, quoi. Enfin, je sais pas, peut-être toi, Marinette, tu pourrais nous parler...
On porte toute sa vie ces crestations, si tu veux. Toute une vie. Moi, j'étais agressé, j'ai eu un traumatisme crânien, et après, on m'a envoyé à Saint-Égrède. Donc à Grenoble, il n'y a rien pour qu'une femme soit accueillie vraiment dans la tranquillité. Sinon, on va te mettre au centre de communal, là-bas, où il y a des SDF, des gens qui sont mal comme tout. Alors, si une femme est battue, et que tous ces hommes fument ou sont ou violeurs ou tout, voilà.
Ouais.
C'est le manque d'accompagnement et le manque de structure pour les femmes qui sont battues.
Ouais, c'est ça. Et puis, en plus, les violences perpétuées envers les femmes, elles se retrouvent vraiment, justement, dans ces trucs... c'est de la violence... Il y a beaucoup, c'est de la violence conjugale, en fait. Hein, c'est,
Oh, mais tu peux avoir la violence par un tiers, hein.
Ouais.
Par un quidame de la rue, moi, pendant... C'était à l'automne. Il y a des loupards qui m'ont cassé la vitre de ma chambre et j'ai dû attendre 15 jours que la maïf se décide pour me faire remplacer la vitre, tu vois.
Mmh. Ouais. Et alors moi sinon j'avais déjà parlé de ça dans une autre émission de Dégenré d'une auteure qui s'appelle Emma Santos notamment qui est passée pas mal par les institutions psychiatriques et là elle a écrit j'avais parlé de La Malcastrée qui est un bouquin que je vous invite à lire et là pour le coup ça s'appelle Pourquoi j'ai tué Emma S et c'est marrant parce que c'est assez lourd et assez triste. Mais là, je ne vais pas vraiment vous lire un passage parce qu'on a plutôt envie de causer avec Marinette. Mais notamment, ce livre-là, elle raconte comment son histoire conjugale aussi, donc qui n'est pas une histoire conjugale, elle n'est pas mariée, elle n'a pas d'enfant, mais mine de rien, comment cette relation avec l'homme qu'elle aime profondément va la réduire aussi en miettes, en fait. Mmh. Et comment lui... Enfin, c'est toujours ce truc genré, en fait, mais qui vraiment pousse les femmes à la folie, en fait. Parce que nous, on est soi-disant sentimental, on laisse sortir nos émotions, et puis quand en face, on n'a rien, et qu'on attend sans cesse, au bout d'un moment, on pète les plombs. Et là, c'est un peu cette histoire-là, en fait, qu'elle raconte. Elle n'en peut plus, et tout ça, machin. Et je vous invite à lire ça, c'est « Pourquoi j'ai tué Emma S. Emma Santos ?» Alors, on va écouter un petit morceau de Cazet, et après, on va causer avec Marinette. Voilà.
On s'en sort trop bien, on a pile 20 minutes.
Et maintenant on cause avec toi, Marie.
J'ai fermé.
Original d'Ilina. De ma race qui saigne, de leur loi qui règne, de larmes, de grogne, de hargne, d'ivrogne, de police qui brandissent leurs armes sans vergogne, de crimes, d'intérim, de déprime, de ceux et celles qui ne riment plus à rien et suppriment ceux qui prennent du roxate, espérant les tranxènes, assimile à 10 000, la roxine et toxines, de routine, drogue, nicotine, frère qui cantine, père qu'on piétine, famille nombreuse et clandestine, mère qui s'obstine, patron qui vole et baratine, gosse qu'on destine, au péton depuis la tétine, de platine, micro-feutrine, de péter les vitrines, de leur doctrine, leur drapeau qui veulent me foutre sur la poitrine, de leur sirène, qui s'illumine comme à la fête foraine, de mes migraines que j'élimine, à grands coups de cachet d'aspirine, de ma haine, de l'insigne, d'esquiver leurs consignes, quand ils m'assignent dans mes tours et c'est ma mort qu'ils signent, de cramer leurs enseignes, des mensonges qu'ils m'enseignent, et de Paname qui baigne dans la panique quand les lumières s'éteignent, et d'éteignent qui veulent le fric de l'avenue Montaigne, ne craignent que dalle, encore moins qu'une balle les atteigne, de mon hymne, mon âme, mon patronyme, ma flamme, mon patrimoine, mes problèmes, mon emblème et mes blâmes, de leur programme, leur forum et référendum, des dilemmes et drames, de milliers de millions de femmes et d'hommes, de mes œdèmes, mis en garde, mis en bière et en berne, de mise en accusation et surtout de prison ferme, de mes séquelles internes, de mon journal intime, de mon état civil infâme et de mes chances infimes, et des normes qui m'enferment, de l'antenne qui informe que les clichés sur nous sont bien réels et conformes, de l'usure, de l'usine, de poison, de résine, mes lésions par dizaines face à leur limousine, des bidons de magazines, ces torchons de seconde zone qui parlent des basanés comme s'ils trouaient l'ozone, les sales putes que je comme des traits des indignes qui se plient devant peu d'oseille et en un mot se résignent. De mes lignes que j'aligne, mon avenir qui s'éloigne et de mes récits qui me soignent, aujourd'hui témoigne. Alors je cogne, on me cogne, je cogne, on me cogne. Je suis constamment en colère, en furie, en rogne. Je suis l'expert en rime extrême dans mon crâne. Je suis l'exclu qui s'exprime, gueule et s'exclame.
J'ai pas tort, m'accroche, crochet à mon intégrité. J'ai pas tort, m'accrocher à mon intégrité.
Maintenir ma l'intégrité à ma manière, faire mes affaires.
J'irai bien par pourrir les FM avec mon délire.
C'était l'exclu de Cazet. Alors, on parlait des violences subies par les femmes, et notamment dans les institutions psychiatriques. Alors Marinette, t'as qu'à nous raconter un peu comment toi t'as vécu toute cette histoire de psychiatrie.
Oh ben, il commence à, par exemple, moi, un soir, quand il y a 3 ans, la police soit de l'infarctus, tu sais comment c'est ici, tu craques la porte et t'es dehors. Si tu as la clé, elle dit, moi je la mets toujours derrière, oh, je suis sorti sur le palier, et la porte a claqué, alors je suis monté sur ses voisins s'ils pouvaient m'ouvrir la porte. Et les flics, les pompiers, tout le monde a débarqué. Il y avait un petit mec qui connaissait rien au niveau des violences des femmes. Et la voisine, elle m'a porté une chaise. Et après, il y a un Pandore, il m'a amené à l'ambulance. Et après, je me suis trouvé là-bas en cardio. Et de cardio, le lendemain matin, je me suis trouvé embarqué pour Saint-Égrève. Avec un infarctus. Et alors, j'ai dit que j'avais mal au cœur, tout ça. Il a fallu que j'attende le mois de mai, donc ça s'était passé en décembre, que le mois de mai, on m'amène passer un examen au CHU.
Et quand on t'a amené à Saint-Égrève, en fait, il y a un médecin qui est venu te voir pour dire qu'on allait t'emmener ou un truc comme ça, ou juste tu t'es réveillé, quoi, juste t'étais embarqué à Saint-Égrève comme ça, en fait, d'office, sans que tu sois au courant?
Ah oui, absolument. Bon, okay. Il y a un cardio qui est venu, il m'a fait une piqûre dans l'aine, et qu'est-ce que c'est que vous mettez, il m'a rien dit. Et après, j'avais du lait et des figues pour manger, parce que bon, ça me maintenait comme ça. Bon, on m'a porté le petit déjeuner le lendemain, et après, on m'a embarqué, et je me suis trouvé à Saint-Égrève.
Et comment s'est passé ton arrivée à Saint-Égrève?
Voilà, ils m'ont emmerdé. Ils m'ont piqué, ils m'ont attaché, ils m'ont gavé de neuroleptiques, c'est dégueulasse.
Et toi, t'avais aucun pouvoir là-dessus?
Eh ben, moi, j'essayais quand j'étais au CHU de téléphoner à Nicolas Luny, qui est en femme invasion, et j'ai pas pu téléphoner à personne. Je n'avais même pas mes carnets d'adresse ni rien.
Ils t'ont pas expliqué, ils t'ont jamais
dit. Non. Chaque fois, on vient me chercher, je vois l'ambulance et on m'embarque et on me dit même pas où je vais. Ils commencent à me sortir toute une artillerie de médicaments, ils me piquent à l'ambulance. Voilà, c'est affreux.
Et ils t'ont même forcé à des moments, non, tu disais?
Oui, oui.
Avec des systèmes de
contention.
Des systèmes de contention, c'est quoi? Ben, peut-être toi tu peux expliquer, Marinette, c'est quoi des systèmes de contention?
Ben, ce sont des sangles comme quand tu vas attacher les chevaux, tu sais, on leur met des jambières, tout ça, et après on leur met sous le poitrail et avec la tête, comme ça.
Et t'étais attaché comme ça à un lit?
À un lit, oui.
Et alors, c'était, ils prétextaient pourquoi ils t'attachaient, en fait?
Ben, parce qu'ils voulaient pas que je me défende ou qu'il me pique ou d'avoir les médicaments que je ne voulais pas.
Parce que toi, tu râlais, quoi. Tu disais que tu voulais pas, tu te débattais ou...
Mais bien sûr, j'argumentais, c'est tout.
Mais on t'écoute pas, quoi, là-bas.
Non.
Ta parole, elle n'a pas de poids.
Non, non. C'est pas droit où j'habite, comme on dit.
Et, alors, tu nous disais tout à l'heure, hors antenne, que tu étais passé par plusieurs institutions psychiatriques.
Oh, bah oui.
Et quel truc revient tout le temps?
Bah, c'est-à-dire,
heurte le plus, toi.
C'est-à-dire que quand tu es psychiatrisé, il y a un registre qui est tenu dans un grand cahier, un grand journal, qui est tenu dans les hôpitaux. Et en même temps, ils envoient ça à l'ADAS et sous la protection, si je veux dire, la tutelle du préfet, il a le double. Alors si il téléphone par exemple à la préfecture de l'Isère où je suis né, et ils vont dire que ça dépend qui est là-bas, mais si il y a un employé communal qui est là, elle a fait des pressions, allez, embarquez.
Ouais, c'est ça, en fait tu veux dire qu'ils enregistrent toutes les fois où tu passes,
ouais,
dans un asile psychiatrique,
ouais,
et ils savent tout sur toi, et à tout moment ils peuvent te retourner ça dans la gueule,
ouais,
pour n'importe quoi.
Absolument.
Et c'est ça aussi, c'est ça que nous on sait aussi, c'est que bientôt toute personne qui passera par un hôpital psychiatrique devra donner son ADN. Enfin, c'est du fichage, quoi.
Bah oui.
Ce sera inscrit sur tous nos fichiers qu'on est passé et lire avec ces... Ouais.
Absolument.
Et ça, c'est quand même un truc...
C'est le viol. J'avais écrit que c'est le viol des droits fondamentaux des citoyennes.
Ah oui. Le fichage.
Le fichage est embarqué comme ça, sans rien dire, c'est des juifs, quoi. C'est comme si, par exemple, tu trouves un chien crevé ou un chien qui est malade, tu l'embarques chez toi et tu le portes chez le béto. Puis le béto, l'autre, il dit, oh, il fait comme ça, et puis le béto fait la piqûre létale, et puis il le débarrasse. Hein. Puis nous, c'est pareil.
Ouais, t'as l'impression que finalement, à partir du moment où on rentre dans l'institution psychiatrique, on est traité comme des chiens et comme des chiennes, quoi.
Comme des rats de laboratoire.
Ouais, c'est clair. Et toi, ton rapport...
Oui.
Ton rapport avec les médicaments et tout ça, machin...
J'étais constipé, il y a un mec, un toubi qui est venu, il a mis un gars, il m'a mis le doigt dans l'anus.
Sans rien te demander, quoi.
Ouais, non, bien sûr.
Ouais,
tu vois, n'importe quoi.
Et à Saint-Égrève, est-ce qu'il y a une séparation entre les hommes et les femmes dans les chambres ou...
Bah, c'est-à-dire, il y a une chambre pour femmes et une chambre pour hommes.
Et vous avez des contacts entre hommes et femmes? Ou est-ce que tu as pu te rendre compte de différences? Est-ce qu'ils étaient. Les infirmiers, les infirmières ou les médecins, est-ce qu'ils agissent différemment avec les hommes et les femmes?
Si par exemple la famille vient ou des amis viennent et qu'ils commencent à discuter et tout ça, des fois ça peut amorcer une sortie plus précoce. Mais si tu n'as personne qui vient te voir, alors là, t'es trituré, t'es emmerdé vraiment sans arrêt.
Ouais, si t'as personne, s'il n'y a pas de solidarité extérieure,
oui,
on fait ce que tu veux de toi, quoi.
Oui,
c'est
absolument.
Un peu comme l'histoire de la tôle, en fait.
Ouais,
enfin,
ouais.
Si t'es seul, t'as qu'à crever, quoi.
Mm.
C'est un peu ça.
Et est-ce que toi, t'as pu vivre des moments où il y avait justement des solidarités entre les femmes avec qui t'étais? Ou est-ce qu'on vous sépare aussi toutes, ou est-ce que...
Bah, c'est-à-dire que pendant au moins 2-3 mois, j'ai mangé dans ma chambre, on m'a porté le plateau, et puis c'est tout.
Et tu restais dans ta chambre?
Et moi, ou éventuellement, il me mettait le plateau sur une table, toute seule, et parmi les autres, tu vois.
Ah ouais. Et toi, tu t'as eu envie à des moments d'aller vers les autres, ou comment?
Moi, je me souviens, une fois, c'était il y a bientôt 2 ans, il y avait une femme, une fille neuve, et je l'ai dit, elle tombait par terre. Et moi, j'avais un beau traumatisme crânien. Hein.
Ah oui.
Non, mais j'ai vécu la galère, vraiment.
Et par exemple, toi, tes galères... Enfin, tu cherchais quoi dans tes moments de galère? Qu'est-ce qui t'aurait permis, en fait, de pouvoir rebondir? Et pourquoi l'institution psychiatrique t'a plutôt écrasé, en fait, là où tu cherchais de l'aide?
Ben... Quand Nicolas Aluni est venu me voir, j'ai pu lui parler un peu, mais pas beaucoup. Et après, elle est revenue, elle était venue avec une autre femme, Mais elle avait son père qui était malade, alors elle n'a pas beaucoup pu venir. Mais.
T'es Nicole, c'est une femme de femme évasion.
Oui, c'est ça.
Pour préciser.
Oui. Et puis, comment dirais-je? Ah oui, il y a deux infirmières qui m'ont accompagné et on a demandé à serrurier pour ouvrir ma porte. Alors le fait que de pouvoir lire mon courrier et de retrouver de ma tanière, eh ben ça m'a fait du bien parce que j'avais quand même quelques repères qui m'étaient personnels, tu vois.
Ouais, qui te manquaient dans l'isolement.
Ah, bien sûr. Et en plus, j'avais un peu d'argent et un chéquier et une carte téléphonique. J'ai demandé à la surveillante ma carte téléphonique ou un peu d'argent pour boire un café, tu vois, à la cafette. Non, rien. Puis un jour, elle est venue, la surveillante, elle a commencé à me charcuter partout pour faire des prises de sang. Tout près, tous les jours.
Oh. Mais presque, c'est ça qui te rend dingue, en fait.
Ouais, tu souffres, quoi. Ouais. Et quand on te dit de pouvoir... Après, j'allais un peu mieux parce que j'ai pu parler un peu... avec Nicole ou avec la voisine, et puis il y a eu des mémés qui mangent avec moi en fourni, ils sont venus me voir. Alors j'ai pu leur parler, et après il y avait une petite affichette qui disait qu'il y aurait une commission. Alors, cette commission, il y avait un secrétaire, une toubib, je me demandais d'où ce qu'elle sortait celle-là, et plus un juge.
Et la toubib, tu l'avais jamais vue?
Non, je me demandais d'où ça sortait, tout ça, moi. Hein. Et après, il a enregistré ce qui me problème. Et après, je suis sorti. Bon, il y avait les élections, tout ça. Et de temps en temps, je demandais à sortir chez moi. Et puis, après, ça sentait mieux parce que j'ai pu parler un peu avec mon voisin, un peu comme ça. Revenir quand même dans une vie un peu sociale, quoi, qu'on peut dire.
Et tu sais, c'est quoi le motif réel de ton internement? Pourquoi? Pour quelles raisons ils t'ont enfermé?
Parce que c'est j'étais là quand ils seront, ah oui, c'était Passe Noël la première fois, je râlais parce que elle voulait m'interner la psychiatre et moi je ne voulais pas. Alors j'ai vite couru chez la kiné, je lui ai dit non, elle me dit je ne peux rien faire. Et après je vais à la pharmacie. Et j'étais complètement paniqué, je ne voulais pas aller à m'interner, qu'on m'interne. Alors j'ai comme un temps assuré, j'ai dit je vais vite aller un peu à la MGN et expliquer ce qui se passe. Et après, je suis allé manger au fourni, et après, je suis rentré à la maison. Et alors j'essaie de téléphoner à l'assistante sociale de l'institution académique. Allez, je ne peux rien. Et après, ils sont débarqués, il y a une infirmière, une salope, elle m'a. Elle m'a caché de chez moi, je n'ai même pas pu téléphoner ni mon voisin ni rien. Et comme c'était à Vernois, j'avais fait un peu de ravitaillement, quoi. Et je n'avais pas eu le temps de le congeler. Et moi, j'ai pris la voisine qui y avait la clé à eau. Elle n'était pas là. Enfin, après, il y avait une psychiatre qui m'a laissé partir pour Noël, et un peu comme ça. La veille de Noël, et le soir de Noël, je suis rentré. Et pour le jour de l'an, pareil. Et après, parce que moi, je faisais la phyto et l'homéo. Alors ça leur plaisait pas, et ils m'ont bourré d'anxiolytiques et tout ça.
Tu dis phyto, c'est phytothérapie et homéopathie.
Tu te soignais par les plantes, quoi.
Ouais. Alors après, ils sont... voyons. Ah oui, ils sont revenus. Ils sont venus. J'étais devant la porte. Je venais de... de la poste. Alors, je suis rentré, j'ai pu prendre les clés. Alors, c'était la dernière, c'était l'année dernière, en 2007. Et après, ils sont revenus, il y avait toute une cohorte qui m'a embarqué, et allez, en course à des grèves, jusqu'au 2 juillet 2007.
Mais toi, tu te sentais folle quand ils sont venus te chercher?
Oh, et il me disait que je délirais, ainsi de suite.
Et je sais pas, qu'est-ce que t'aurais envie de dire à des nanas qui se font attraper comme ça? Enfin, est-ce que t'as trouvé des astuces?
Il faut attendre qu'on te libère. Mais dans ce cas-là, si on a des... Par exemple, moi, je ne vous connaissais pas. Mais je connaissais que Nicole depuis 32 ans, alors. on me connaît bien. Mais dans ce cas-là, si une femme est internée, quand, ça dépend aussi dans quel état elle se trouve, que ce soit une association ou un voisin, tout ça, avec qui on a des bons rapports, peuvent demander au juge des libertés la résiliation immédiate de l'hospitalisation. La levée, voilà.
Et plus on est entouré, plus...
Mieux ça vaut. Alors j'ai vécu aussi aussi j'étais souffrant, ça m'a fait beaucoup de peine. C'était en 2000, alors j'étais chez une copine à Nice. Son fils a été hospitalisé et après on l'a porté en psychiatrie. Alors elle a téléphoné à Cannes, alors à Cannes. Alors il me dit il est à l'hôpital et après on l'a transformé. Puis après on a discuté, il y avait des jeunes qui le connaissaient, tout ça, sa sœur et tout. Alors on a discuté tout ça, puis j'ai dit à sa mère, écoute, va voir un peu la Bible et dis-lui que mon fils, je le récupère chez moi et que tu le récupères chez toi et qu'on va lui donner à manger et tout. Sinon, on va faire un tour par là, c'était dans une pizzeria où il y a des crêperies pour qu'il mange, correctement. Il avait mangé le ballon. Alors après, j'ai dit, viens. C'était vers 7h du soir par là. Elle était dit, allez vite, on se casse. Tu es tiré par le bras. C'était vraiment symbolique de dire, voilà, tu es jeune, mais moi je veux pas que tu sois psychiatrisé. Alors il y avait tout le monde qui disait qu'il voulait le mettre dans une clinique. Alors on dit, non, fais-les parler comme ça. Puis après, il dit, non, tu veux pas. Alors un matin, il se lève. Il dit, alors t'es dit, tu veux quoi? On fait un petit déjeuner, allez, un bon chocolat, des bonnes tartines, et on va discuter. Alors, yep. on va faire un peu de... Tu as enlevé les bambous du jardin de ta mère, puis on va couper un peu les lierres.
Allez au boulot.
Alors, et comme il était un peu... Quand on est comme ça excité, on a beaucoup d'énergie, et après ça tombe. Alors moi j'ai dit... Puis après, je suis resté... Moi j'avais une bonne ferraille des yeux, j'avais mes yeux qui étaient rouges comme ça. Je ne pouvais pas dormir tellement j'étais malheureuse pour lui. Puis après, je l'ai sauvé. Et maintenant, il va bien, il va drouiller et tout.
Ouais, super. Ouais. Être présent, quoi. Il faut être présent.
Ah oui, oui.
Être présent dans ceux qui, à un moment donné, pètent les plombs.
Ouais.
Alors, ça va être la fin de l'émission. Parce qu'il est 8h, alors il faut rendre l'antenne.
Ouais.
Il y en aura d'autres. C'est ça le but, un peu. La prochaine fois, on aimerait avoir plus de témoignages. Peut-être Marinette, tu reviendras.
Oui.
Et voilà.
Alors, pour finir, juste avant la petite chanson de transition, si vous êtes tranquillement chez vous ou en plein milieu d'une soirée collective, nous vous proposons de faire sortir toute votre folie et votre rage contre ce putain de monde de merde!
Avez-vous vu un homme tout nu sortir soudain de la salle de bain, déjà chauve et un peu ventru et la moustache pleine de chagrin? Avez-vous vu un homme bien laid en train de manger des spaghettis, fourchette au poing, l'air abruti, de la sauce tomate sur son gilet? Quand ils sont beaux, ils sont idiots. Quand ils sont vieux, ils sont affreux. Quand ils sont grands, ils sont feignants. Quand ils sont petits, ils sont méchants. Ne vous mariez pas, les filles, ne vous mariez pas. Faites plutôt du cinéma, restez pucelle chez votre papa. Élevez des singes, élevez des chats, soyez radeuses, avenue du Bois. Mais ne vous mariez pas, les filles, ne vous mariez pas. Avez-vous vu un homme gêné rentrer trop tard pour le dîner, du rouge à lèvres sur le col, du flageolant dans la guibole? Avez-vous vu au cabaret un monsieur qui n'est plus très frais se pencher avec insistance sur une petite fleur d'innocence? Quand ils sont bêtes, ils vous embêtent. Quand ils sont forts, ils font du sport. Quand ils sont riches, ils gardent l'artiche. Quand ils sont durs, ils vous torturent. Ne vous mariez pas, les filles, ne vous mariez pas. Mettez vos robes de gala, allez danser à l'Olympia, changez d'amant 4 fois par mois. Ah, la belle vie que ce sera si vous ne vous mariez pas, les filles, si vous ne vous mariez pas.
Alors ce soir, on a un peu plus de temps parce que les autres, ils sont pas arrivés. C'était aussi pour vous dire que le lundi, il y a une rediffusion à 19h.
C'est-à-dire le lundi qui suit l'émission.
C'est ça, donc c'est-à-dire lundi prochain.
Lundi
1er. Non.
Attends.
Lundi 1er.
Lundi 31.
Ah, 31.
31.
Ah. Voilà.
Ok, donc lundi, quoi.
Ouais, lundi.
À 6h ?
Ah ouais, ah mais oui.
6h ?
Non, mais c'est vachement important, on peut en profiter. Demain.
Ah, bah ouais.
Demain, non, mais parce que demain... Non, mais attendez.
Ah non, mais pas mais la
borne. On a le temps.
En fait, il y a deux choses vraiment intéressantes à faire ce jeudi soir et ce vendredi soir. Ce jeudi soir, il y a des copines... Parce que bon, c'est un peu facile. Il y a des femmes formidables qui organisent un spectacle discussion en non-mixité. Donc, entre femmes, un spectacle fait par des femmes, pour des femmes, et qui se passera à Antigone, au 22 rue des Violettes, à 19h.
Demain,
jeudi. Et c'est basé sur les monologues du vagin, qui est un bouquin de recueil de témoignages fait par Eve Hensler, qui est assez connu et qui a été monté pas mal en pièces de théâtre. Et alors, les femmes qui proposent la soirée autour de ce texte, elles ont pris des extraits de ce livre, mais aussi elles ont écrit des textes, elles en ont pris ailleurs, et elles ont mis en scène... plein de petits moments autour du vagin, autour de notre sexualité. Et ça favorise, ça, dans l'idée aussi, c'est pour favoriser la rencontre entre femmes, pour parler, pour discuter de ça, pour se rendre compte qu'on n'est pas toutes seules face à notre vagin, qu'on a des représentations différentes, que c'est tout un monde et qu'on a vachement intérêt à naviguer dedans.
Ouais, je pense qu'il faut être curieux. En plus, c'est prix libre, donc c'est accessible pour tout le monde. Alors, il ne faut pas hésiter à venir. Aussi, pour continuer sur les informations, jeudi et vendredi, au local autogéré qui se trouve...
7 rue Pierre-Dupont.
7 rue Pierre-Dupont, à
19h. À 19h, c'est dans le quartier de l'Aigle. Et Antigone, pour jeudi soir, c'est pour les monologues du vagin, c'est vers le pont de Catane.
Donc du coup...
Près du lycée des Eaux-Claires.
C'est ça. Ouais, on fait n'importe quoi. Non seulement on garde l'antenne plus longtemps, et en plus, on dit n'importe comment les informations. Yeah. Et alors, du coup, là, au local autogéré, donc cette rue...
Pierre-Dupont.
Et ben, il y a des intervenants, enfin des gens qui travaillent à la Borde, donc qui est aussi une institution psychiatrique, mais qui est particulière, qui a une histoire particulière, qui s'inspire notamment, je crois, de la psychiatrie institutionnelle.
Ah bah oui, pour sûr.
Toskaïev, Youri, tout ça, machin. Enfin bref, je pense que ça vaut le coup d'être curieux et de venir voir aussi et d'écouter. Je crois qu'ils présentent un film et en même temps ils discutent autour du sujet de la psychiatrie. Je vous invite vraiment à venir. Et aussi, donc, dans la prochaine émission, il y aura des copines qui vont venir, qui ont monté un groupe de femmes qui s'appelle FFO, donc Femme Fuck Off. Voilà, qui se retrouvent à Grenoble pour discuter de sujets divers et variés, je crois, autour de la question des femmes. Et du coup, elles viendront à la prochaine émission foutre un peu le dawa, je crois. C'est un peu ça l'idée. Expulser leur nerf et tout ça.
Donc...
Le 6. Moi qui fais la technique et qu'on remercie, voudrait savoir quelle chanson elle passe, je crois que c'est ça. Elle propose la 6. Et moi je voudrais avant ça dire que en fait, les soirées où il y a des gens qui travaillent à la Borde, qui viennent au local autogéré pour parler de psychiatrie, ils viennent dans un lieu qui est petit. Le local autogéré, c'est petit. Et pour aussi favoriser des discussions de qualité, on s'est dit que ça serait bien de ne pas être... 80, parce que c'est pas possible de rentrer à 80. Donc il y a un système de réservation où il me semble qu'il y a déjà plus de place pour jeudi soir, mais peut-être pour vendredi soir il y en a encore un peu. Et vous pouvez voir ça sur internet, sur le site du local autogéré qui est hébergé par lustucrust.org, comme lustucru, et puis à la fin ST comme crust.org.
il y a l'adresse email du local où on peut réserver. Et sinon, il y a un numéro de téléphone qui est le 06 11 53 22 29. C'est toujours chiant de dire les numéros de téléphone à la radio, mais j'ai qu'à le répéter, comme ça peut-être vous aurez pris un stylo. C'est le 06 11 53 22 29. Et maintenant.
Merci.
Va bien falloir rendre l'antenne, sinon on pourrait rester toute la nuit.
Ouais.
On dirait que
des non, on va aller manger.
Alors, à bientôt.
Au revoir.
Ouais, au revoir. Bon courage.
Oh ma folie, mon beau bateau, mène-moi à Valparaiso.